On va ouvrir la Bible ensemble dans l'épître de Paul aux Galates. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, un passage bien connu pour ceux qui lisent l'épître aux Galates, c'est un passage que nous connaissons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà, on va retenir ce soir, et ce va être le début d'ailleurs de plusieurs mardis, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On va s'arrêter sur chacune de ces caractéristiques, excusez-moi, du fruit de l'esprit. Et ce soir, bien sûr, on va parler de l'amour. Paul a écrit cette épître aux Galates parce que les Galates avaient été séduits par certains enseignements et ils observaient tout à nouveau certains rites, certaines choses qui étaient relatifs à la loi de Moïse. Et donc c'est pour ça que l'apôtre ici rajoute que la loi n'est pas contre ces choses-là. Et dans cette épître, il met en garde effectivement ces chrétiens de Galates qui, en fin de compte, attachaient plus d'importance à un certain rituel qu'à l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est la foi en Christ et l'amour qu'il a démontré pour chacun d'entre nous à la croix. Et cet amour dont nous sommes rendus les uns et les autres bénéficiaires par la grâce, par le Saint-Esprit qui agit en nous. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et c'est vrai que lorsqu'on parle d'amour, quelle loi, j'allais dire même, non seulement la loi de Moïse, mais quelle loi humaine serait contre l'amour? Il n'y a pas de loi contre cela, la loi n'est pas contre ces choses. Dieu est amour, c'est écrit dans la parole de Dieu, on lira peut-être certains textes dans la parole de Dieu, et c'est vrai que la révélation de ce Dieu d'amour a été manifestée d'une manière glorieuse et magnifique à la croix, car nous savons que alors que même que nous étions ennemis de Dieu, lorsque nous étions des pécheurs, eh bien, encore éloignés de lui, Christ Jésus est monté sur la croix pour chacun d'entre nous afin de porter nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu afin que nous soyons pardonnés, que Dieu soit béni. Donc la croix est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Et pour que nous puissions porter ce fruit, il y a eu déjà cette réconciliation, cette communion, j'allais dire, avec Dieu qui est rendue possible, une communion spirituelle qui est rendue possible par le Saint-Esprit, parce que Christ a ôté nos péchés sur la croix et que son nom soit glorifié. Alors, bien sûr, pour avoir cet amour, j'allais dire, pour que cet amour puisse grandir en nous, il nous faut connaître Dieu. Non pas une connaissance intellectuelle, on peut avoir des théories sur Dieu. Bon, on peut avoir des théories sur Dieu, mais sans que cela ne change la vie, sans que cela ne change le cœur. Cette connaissance de Dieu, elle va au-delà des théories, c'est une connaissance du cœur qui connaît, qui rencontre Dieu qui, au fur et à mesure des jours passants, des mois, des années, apprend à mieux en mieux le connaître, et plus notre connaissance de Dieu évolue, plus, bien sûr, eh bien, nous connaissons ce Dieu d'amour et cet amour devient notre partage. J'aimerais avec vous lire dans la première épître de Jean, chapitre 4. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà, c'est clair et net. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On peut passer au verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On va passer au verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Voilà, il est clair que dans ce passage, et on aurait pu en citer d'autres, que Dieu est amour et qu'il s'est révélé même le premier à nous. Il nous a aimé le premier, c'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a aimé en premier, nous a révélé son amour. Et nous y avons cru en cet amour et nous sommes, j'allais dire, baignés dans cet amour. Nous avons connu Dieu et alors c'est pour cela qu'il est dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, c'est pas possible. Parce que il dit « celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc voilà, on voit ici l'importance de connaître ce Dieu d'amour, de connaître ce Dieu-là qui s'est manifesté afin que nous puissions eh bien porter aussi ce fruit de l'Esprit, grandir en lui, grandir dans cet amour, grandir dans les autres aussi, fruit de l'Esprit, la joie, la paix. On a chanté des chants sur la paix ce soir, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, l'amour. Alors, bien sûr, quand on parle d'amour, ça commence par aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est vrai que ça, c'est le premier commandement. Nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout. Plus que tout ce qui peut exister sur cette terre. Et Jésus dira qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas aimer deux dieux. On ne peut pas aimer Dieu et on ne peut pas aimer maman, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, aimer Dieu plus que tout. C'est le problème du jeune homme riche dans la Bible. On ne peut pas dire que cet homme méprisait Dieu. Non, il avait du respect pour Dieu. C'était un jeune qui avait suivi la loi de Moïse. On parlait tout à l'heure de la loi de Moïse, donc on voit que il s'était forcé à suivre cette loi, à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas mentir, etc. Bon, voilà, à respecter parce que les Juifs respectaient le sabbat. Donc on voit que, eh bien, il respectait ces choses-là. Il avait une certaine crainte de Dieu. On peut dire. Oui, une certaine estime de Dieu, on ne peut pas lui enlever cela. Il se posait des questions spirituelles quant au salut de son âme. C'est bien de se poser des questions sur le salut de son âme. Hein, d'ailleurs, il vient vers Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Donc, il avait des bonnes questions. Malheureusement, il n'a pas trouvé de réponse. Jésus va lui donner une réponse à cette question. Qu'il avait certainement dans sa tête depuis quelque temps. Et quand il a enfin la réponse que Jésus lui donne, il s'en est allé tout triste. Pourquoi ? Parce que Jésus a pointé du doigt quelque chose qu'il y avait dans son cœur, c'était l'amour de l'argent qui surpassait tout dans sa vie. L'amour de l'argent, l'amour des richesses. C'est pas un péché d'avoir des richesses, c'est pas ça. Le problème, c'est d'y attacher son cœur. Le problème, c'est que lorsque ces richesses, lorsque tout ce que ça peut nous procurer, remplit tellement notre cœur que Dieu passe en second plan. Voilà, quelqu'un d'une bonne moralité, mais Dieu n'avait pas la première place dans sa vie. C'était ses richesses qui avaient eu la première place. Donc on a une belle image de quelqu'un qui est là et qui, j'allais dire, a pour Dieu maman, en fin de compte, c'est ça. Il a pour Dieu Mammon. Quand on voit, quand on étudie la parole de Dieu, nous voyons que aimer Dieu plus que tout, c'est pas si évident que cela, en fin de compte. Et il nous faut vraiment la grâce de Dieu et qu'elle se renouvelle chaque jour pour que nous puissions vraiment toujours placer Dieu en premier. L'église d'Éphèse lui a fait ce reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y avait des bonnes choses dans cette église, oui. Il y avait des bonnes choses. Elle était capable de réfuter les faux docteurs, elle était capable de faire certaines bonnes œuvres, etc. Très bien. On n'est pas contre ces choses. Mais le problème de cette église, c'est que, voilà, elle avait abandonné son premier amour. Ça, c'était grave. C'est grave. Quand on abandonne son premier amour, c'est-à-dire cet amour pour Dieu, l'apôtre Paul va dire à Timothée que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de Dieu nous remplit d'amour. On reconnaît l'arbre à son fruit. Nous parlons du fruit de l'esprit. Nous reconnaissons l'arbre à son fruit et le chrétien doit porter ce fruit de l'esprit qui est l'amour puisque le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Quelqu'un qui me dirait « je suis rempli de l'esprit, la preuve, je parle en langue » mais qui n'est pas capable d'aimer son prochain, je dirais non, tu n'es pas rempli de l'esprit. Ça ne prouve rien de parler en langue. Hein. Ça ne prouve rien. Par contre, on reconnaît l'arbre à son fruit. D'ailleurs, Jean dira bien, hein, si quelqu'un dit « j'aime Dieu qu'il haïsse son frère », c'est pas possible. Donc, et c'est valable, l'apôtre Paul le dit bien, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je suis rien. Donc on voit, c'est à l'amour qu'on reconnaît, j'allais dire, l'authenticité de la foi de quelqu'un. L'authenticité de la foi de quelqu'un. Alors, aimer Dieu, et bien sûr, aimer son prochain. Aimer son prochain, quel qu'il soit. Parce qu'on ne choisit pas son prochain. On ne choisit pas son prochain, mais nous voulons aimer. Vous savez, l'amour, c'est une grâce de Dieu. Il y a des grâces comme ça que Dieu déverse sur toute l'humanité. Par exemple, il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ça fait partie des grâces. Et ça, c'est des grâces, j'allais dire, matérielles, physiques. Mais il y a aussi des grâces morales que Dieu donne. Et l'amour en fait partie. Il y a certains textes de la parole de Dieu qui nous parlent des chemins de toute la terre. Et ça en fait partie. C'est-à-dire que, j'allais dire que même si, j'allais dire que l'amour est quelque chose d'universel, quelle que soit la religion, hein. L'amour que les parents portent envers leurs enfants, voilà. Vous savez, l'amour c'est une grâce que Dieu donne. Si on vivait sans amour sur cette terre, s'il n'y avait aucun amour, déjà c'est difficile, mais on peut s'imaginer s'il n'y avait pas le moindre once d'amour sur cette terre. On serait là ce soir, on serait tous avec des couteaux, des armes. Voilà, ce serait un enfer. Ce serait un enfer dans les familles. Et déjà, on le voit quand il y a la haine dans une famille, quand la haine s'empare d'une famille. C'est terrible. Donc, l'amour est une grâce. Jésus dira, si vous aimez eh bien ceux qui vous aiment, bon, bah oui, mais vous ne faites rien d'extraordinaire parce que les païens font de même. Et alors, cette grâce de l'amour qui est universelle, qui nous est commune les uns les autres, c'est une grâce de Dieu, on veut remercier. Mais quand il est dit du fruit de l'esprit, c'est autre chose. Quand il est parlé du fruit de l'esprit, on a bien compris que c'est autre chose, que c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait venir en nous parce qu'il travaille nos cœurs, parce qu'il va le produire. Et j'allais dire, ça c'est comme du vin, hein, du bon vin, il faut du temps. La maturation. Un fruit, ça vient pas, c'est pas mûr du jour au lendemain. Et donc, c'est ce que va produire le Saint-Esprit en nous. Et cet amour-là, j'allais dire, il est spirituel. Il vient du ciel. Il vient de Dieu. Cet amour-là nous rend capables d'aimer à la mesure de Dieu. Comment Dieu aime ? Nous sommes appelés à être fils et filles de Dieu. C'est-à-dire à lui ressembler, un enfant ressemble à ses parents, Et dans ces qualités, bien sûr, ça ne vient pas de nous, on ne peut pas produire ça. C'est le Saint-Esprit qui peut le produire. Nous sommes rendus capables d'aimer, même ceux qui ne sont pas aimables, nous sommes rendus capables d'aimer même nos ennemis. Jésus le dira à un moment donné. Dans Matthieu, on peut lire certains textes. Matthieu, chapitre 5. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Voilà, donc on voit ici que nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Alors, aimer nos amis, ça va. C'est facile. Mais aimer nos ennemis, ceux qui nous trahissent, ceux qui nous font du mal, ça c'est beaucoup plus difficile. Et je vais le dire humainement, ça passe pas. Humainement, ça va pas. Ça, on n'est pas capable de ça. Et c'est pour ça que c'est le fruit de l'esprit. C'est pour ça que c'est le fruit de l'esprit d'aimer ceux qui nous maltraitent, d'aimer ceux qui nous persécutent. Ça, c'est l'amour de Dieu, qui a aimé même ses ennemis. Jésus sur la croix s'est écrié: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'au bout, Jésus a aimé. Il savait, pourquoi il venait, il n'a pas dérobé son visage, il est allé jusqu'au bout, il était déterminé à aller jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Dans Jean chapitre 15, on voit que Jésus nous invite à ça, à aimer comme lui, c'est la mesure. Voilà, la mesure, elle n'est pas basse, la mesure, elle est haute. Jésus met la barre très haute. Mais s'il nous dit ça, c'est que nous le pouvons, non pas par nous-mêmes, mais c'est que nous le pouvons par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est quelque chose que Dieu produit en nous et dont on a besoin pour vivre sur cette terre. On a besoin de cet amour en tant que chrétien pour vivre notre foi chrétienne, parce que le fait de mettre sa foi en Jésus n'est pas du goût de tout le monde aussi. Et cela peut nous susciter, bien sûr, des difficultés, mais des moqueries. Mais c'est là que l'amour va entrer en jeu, et c'est un témoignage. C'est un témoignage. L'amour est là, et la foi, on a parlé de la foi récemment, est rendue agissante par l'amour. La foi est rendue agissante par l'amour. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans la même épître aux Galates, chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, parce qu'ils attachaient beaucoup d'importance à la circoncision, parce que pour eux, pour être sauvés, il fallait être circoncis. Bon. Mais l'apôtre Paul dira, ça c'est extérieur. Ce n'est pas la circoncision qui va changer le cœur. Mais en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Il dira encore au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Donc voilà l'importance que l'apôtre Paul attache à l'amour, et on pourrait lire tellement d'autres textes encore qui nous en parlent. Donc pourquoi? Parce que c'est central. C'est central. Foi, amour et espérance. C'est central dans la foi chrétienne. L'amour, on ne peut pas être chrétien, j'allais dire, sans aimer. C'est dans notre ADN, j'allais dire. C'est dans notre ADN. Donc l'amour a son importance. Et il y a des exemples dans la Bible, et puis il y a des exemples, des témoignages aussi. Nous le savons que cet amour est mis à l'épreuve. cet amour est mis à l'épreuve. Elle est éprouvée. Comme la foi est mise à l'épreuve, l'amour est éprouvé. C'est dans l'épreuve, justement, qu'on voit la véracité, l'authenticité des vertus de quelqu'un. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. Pas de problème. Quand les gens sont gentils avec nous, pas de problème. Mais c'est justement quand l'opposition arrive qu'il nous faut aimer. Que Dieu nous aide. Parce que nous savons, et nous l'avons lu récemment, dans Matthieu 24, verset 12, il est dit que, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause de l'iniquité qui sera croissante. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Il nous faut vraiment veiller sur notre cœur afin de toujours pouvoir aimer. L'amour va surmonter tout ce qui va pouvoir nous arriver. Comme David, qui était persécuté par Saül, qui a été capable de l'aimer, qui va même faire un chant funèbre sur lui, malgré tout ce que Saül lui a fait, il va surmonter tout cela par l'amour. Il nous a dit de surmonter le mal par le bien. Et là, le bien, c'était de continuer à aimer. Continuer à aimer Saül, c'est ce que David a fait. Et il ne voulait pas le toucher, ne voulait pas toucher à Saül, alors qu'il aurait pu le faire. L'amour est mis à l'épreuve. Il y a cet épisode dans la Bible aussi où deux prostituées se disputent un bébé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la nuit, il y a un bébé qui va mourir. Et la prostituée qui voit ça va prendre le bébé de l'autre femme, de l'autre prostituée, et elle va échanger les bébés. Et au matin, bien sûr, l'autre découvre que le bébé est mort, mais ce n'est pas le sien qui a été mis là, etc. Bon. L'affaire va jusqu'au roi Salomon. Alors Salomon, devant, j'allais dire, ces deux femmes qui se disputent le bébé qui est en vie, il y en a une qui ment, bien sûr, mais Salomon, lui, il ne sait pas laquelle qui ment. Alors, apporter une épée, couper l'enfant en deux et donner la moitié à chaque femme. C'est terrible, ça. Qu'est-ce qui va révéler la vraie mère ? L'amour. Parce que la vraie mère va sentir ses entrailles s'émouvoir au-dedans d'elle. Elle est prête à donner l'enfant pour qu'il vive. Prête à le donner à l'autre pour qu'il vive, afin qu'il ne soit pas coupé en deux par cette épée. Et elle va se jeter sur l'enfant et dire, mais non, donnez-lui l'enfant. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle va faire, la fausse mère ? Oh non, 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 il sera ni à toi ni à moi, on le coupe. Alors Salomon a bien compris. Ce qui va révéler la vérité, c'est l'amour. Vous voyez, l'amour a une force extraordinaire. L'amour va révéler ici la vérité et va arrêter, j'allais dire, cette épée, cette justice que Salomon était prêt à exécuter. Mais Salomon, bien sûr, a arrêté ce geste parce que la vérité a été révélée. Vous voyez, la force de l'amour qui va surmonter, qui est capable de faire des choses inimaginables. C'est pour cela que la foi, elle est rendue agissante par l'amour, parce que c'est son énergie. J'allais dire, c'est ce qui la propulse, c'est ce qui la met en avant. Alors, nous voulons aimer comme Dieu aime, parce qu'il y a aussi des amours charnels, hein, sensuels. C'est pas de cet amour-là dont on parle. La parole de Dieu, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Or, Dieu est amour. Bien sûr, le péché est entré dans l'humanité et a détérioré beaucoup de choses. Mais merci, merci Seigneur, parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui restaure les choses. J'aimerais encore lire avec vous un autre passage dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce passage encore nous parle de l'amour, et l'apôtre Paul en faisait un sujet de prière. Il priait Dieu pour qu'il leur donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour. Donc on voit là l'importance vraiment de l'amour pour notre cœur, pour notre âme, d'être dans cet amour de Dieu, et qu'ainsi nous puissions comprendre eh bien quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Voilà, l'amour de Dieu, il est large. Le nôtre est un peu moins large. Mais l'amour de Dieu, il est large. Il est capable d'aimer toutes sortes de personnes, aussi différentes soient-elles, de toute nationalité, de toute condition sociale. On voit dans les évangiles, toutes sortes de personnes côtoyaient Jésus. Il y avait les publicains, les prostituées, il y avait les gens bien, il y avait les gens religieux, les gens riches, les gens pauvres, les gens malades, les impotents, ceux qui étaient possédés de mauvais esprits, toutes sortes de personnes sont venues à Jésus. Et Jésus les a aimés. Donc la largeur de l'amour de Dieu, que notre cœur s'élargisse. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira à un moment donné aussi, élargissez vos cœurs, il le dira. Vos cœurs se sont rétrécis, mais élargissez vos cœurs, qu'on puisse aimer. La longueur. Dieu ne nous aime pas simplement quelques instants, ou quelques minutes, quelques jours, quelques années, non. Mais il nous aime dans la durée. Il nous aime dans la durée. La longueur de l'amour de Dieu. Sa profondeur aussi. Sa profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu qui sonde nos cœurs jusqu'au plus profond. Et là, même voyant les profondeurs de notre cœur, même voyant ce que nous ne voyons pas, il est encore celui qui nous aime. Et puis, la hauteur, parce qu'il nous amène jusqu'à lui, afin que nous puissions encore, le célébrer, et que nous puissions l'aimer, et que nous puissions aimer comme lui, il nous aime, et connaître l'amour de Christ. C'est ainsi qu'on connaît l'amour de Christ, c'est pas autrement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. D'ailleurs, il le dit bien l'apôtre Paul, que nous puissions être fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et force, amour, sagesse, donc, et cet amour-là va nous enraciner, cet amour-là va nous fortifier, dans notre être intérieur. Quelqu'un qui aime de cette manière-là, qu'arrive toutes sortes d'épreuves dans la vie, il tient ferme. Il tient ferme. Parce qu'il arrive à surmonter tout ça. Ce qui nous cause bien souvent le plus de difficultés dans la vie, ce sont des relations humaines qui deviennent pénibles. La maladie, c'est difficile. Mais des fois, on arrive à l'accepter, même si la douleur est là. La souffrance physique, c'est une chose, la souffrance physique. Mais la souffrance morale, due aux relations, due aux trahisons, due aux mauvais coups qu'on nous a faits, et parfois de gens qu'on aimait, qui avaient toute notre confiance. Et parfois c'est tellement pernicieux que c'est comme un coup de poignard qu'on reçoit au plus profond de notre être, et ça fait du mal. Mais si malgré cette douleur, nous sommes encore capables d'aimer, pas grand-chose qui peut venir nous ébranler. Et ça, c'est rendu possible par le fruit de l'esprit. Et pour revenir à l'Épître aux Galates, on a commencé avec ça, on va finir avec ça. La loi de Moïse, elle était bonne, mais elle ne pouvait pas produire ça. La loi de Moïse était aussi le fruit de l'amour de Dieu, puisque l'apôtre Paul dira aussi que toute la loi est accomplie dans l'amour. Mais comme c'était des choses à suivre à la lettre, on pouvait les suivre sans que cela ne change le cœur. D'ailleurs, même il est écrit que Dieu prend plaisir à la compassion et non au sacrifice. D'ailleurs, parce que dans la loi de Moïse, il y avait des sacrifices. Mais ces sacrifices-là, certains offraient des sacrifices sans que leur cœur soit changé. Ils pouvaient offrir des sacrifices de culpabilité, de repentance et autres, mais c'était que de l'apparence, leur cœur n'était pas changé. C'est pas la loi qui pouvait changer les cœurs. S'ils devaient offrir un sacrifice de culpabilité, c'était vraiment parce que, oui, ils se sentaient coupables et se repentaient devant Dieu. Alors, leur sacrifice avait du sens à ce moment-là. Mais sinon, Dieu prend plaisir à la miséricorde, à la compassion, à l'amour. Il prend plaisir à ces choses-là et non pas au sacrifice. La loi ne pouvait pas changer ces choses-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul va écrire cette épître aux Galates qui est merveilleuse, parce que eux, ils voulaient retourner à cela, mais ça ne change rien, ça ne change rien. Au contraire même, ça étouffe. Ça étouffe parce que ça met sous un carcan et ça empêche, ça enlève cette liberté. Cette liberté, ça enlève cette capacité à aimer comme Dieu nous aime. Alors, nous voulons vraiment dire, Seigneur, oui, je te dis oui déjà dans ma vie, je t'accepte dans ma vie, et Seigneur, j'accepte ta parole et fais ton œuvre dans mon cœur, afin que je puisse te ressembler de plus en plus, car c'est là aussi ce que nous désirons, ce que nous désirons. Le fruit de l'Esprit, c'est donc l'amour. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide par son Saint-Esprit. Merci au Seigneur de tout notre cœur, parce qu'il est celui qui a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. On va remercier le Seigneur de tout notre cœur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs, c'est une grâce. Il y a cet amour qui est naturel, que tu répands sur l'humanité, Seigneur, et c'est une grâce. Mais il y a aussi cet amour qui est ce fruit de l'Esprit, qui est le partage de ceux et de celles qui un jour t'ont dit oui, qui un jour ont accepté que, Seigneur, tu viennes dans leur vie, qui ont reconnu que tu es celui qui est monté sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité d'entre les morts. Tu as vaincu la mort. C'est le partage de ceux et de celles qui t'ont laissé toute leur place dans leur cœur, dans leur vie. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as mis en nos cœurs et qui nous rend capables d'aimer comme toi tu aimes. Ah Seigneur, nous nous sentons si petits devant toi, nous ne sommes rien, Seigneur, mais ta grâce est agissante en nous. À toi soit donc toute l'honneur, Seigneur. Oui, c'est toi qui encore nous façonnes jour après jour. Seigneur, merci, merci encore pour le Saint-Esprit dans nos cœurs. À toi soit toute la gloire, Jésus. Voilà, que Dieu soit béni.